Chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Que le Seigneur puisse bénir cette parole dans notre cœur. Amen.
Je remercie Frédéric pour ses paroles d'accueil. Je me sens toujours bien quand je viens dans cette église. Ce n'est pas la première fois, mais je vois des visages connus et c'est un plaisir pour mon épouse et moi-même d'être avec vous pour rompre le pain de vie ce matin et les rencontres qui auront lieu donc chaque soir de cette semaine. Je vous salue aussi fraternellement de la part de l'église francophone d'Antirabé, dont je suis aussi le pasteur. Et qui savent, quand ils savent que je vais quelque part, ils me demandent de ne pas oublier de saluer les frères. Et je suis heureux d'appartenir à cette église adventiste. Je ne sais pas pour vous, mais je suis fier et heureux d'appartenir à l'église adventiste. Parce que quel que soit l'endroit où je vais, je me sens dans ma famille. Pas vous ? Oui, 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 je me sens dans ma famille. Nous vivons dans un monde qui va mal. La majorité des pays n'offrent pas suffisamment d'emplois à leurs ressortissants et nombreux sont les jeunes qui, à la fin de leurs études, ne trouvent pas de travail. Le monde va mal parce que l'antisémitisme se développe, l'insécurité augmente. Les procès pour viol, inceste, agression sexuelle sont dans une progression alarmante. Et 80% des habitants de la planète vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Oui, le monde va mal. Mais le monde va mal parce que les familles vont mal. Le monde va mal parce que des hommes, des femmes, des jeunes dans leur vie personnelle, vont mal. Il est probable que si je vous demandais comment allez-vous, vous me diriez peut-être que ça va. Et que si j'ajoutais comment allez-vous spirituellement, certains me diraient ça ne va pas très bien. J'aimerais au cours de cette matinée vous aider à aller mieux, à envisager une vie plus épanouissante. Aussi, j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, prier pour que le Seigneur m'utilise à cet effet. Je vous invite à vous incliner. Éternel, mon Dieu, veuille dans ta grâce m'utiliser et me qualifier pour parler à tes enfants ce matin. Que ton Esprit Saint dispose leur cœur à t'écouter et recevoir le message que tu leur adresseras alors que nous allons ouvrir ta parole. Amen. Avant de parler du mal-être des familles et de ceux qui vous permettraient d'aller mieux, permettez que je vous dise pourquoi le monde va mal en me référant au texte biblique dont la conclusion a été lue pour introduire ce moment de culte. Je vous invite à le retrouver dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Marc, chapitre 5. Et nous lirons les versets 1 à 10. Marc, chapitre 5, versets 1 à 10. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ils, c'est Jésus et ses disciples, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse dans les nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Ce texte me fait penser non seulement au monde dans lequel nous sommes, mais aussi aux différentes situations qui font ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire se passe un jour où Jésus a décidé de quitter le côté du lac où étaient les Israélites pour se rendre de l'autre côté du lac, ou dans le pays où se trouve le pays des Gadaréniens notamment. Les gens qui habitaient sur les rives du lac disaient qu'il s'agissait d'une mer à cause des violentes tempêtes qui se déchaînaient brusquement sur ses eaux. Et justement, le jour où Jésus décida de traverser avec ses disciples, le vent s'est mis à souffler, les eaux se sont déchaînées. Il y eut une violente tempête, comme pour leur dire qu'il était dangereux d'aller là-bas. La barque était en péril. Et les disciples voyaient leur dernier jour arriver, comme c'est souvent le cas d'ailleurs de tempêtes, de tremblements de terre, de tornades ou autres catastrophes naturelles, avec la grande différence que lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles, on attend que les choses se passent pour constater les dégâts. Alors que sur le lac, ce jour-là, Jésus ordonna au vent et aux eaux de se taire. Les éléments se calmèrent et les disciples continuèrent à naviguer paisiblement avec Jésus. Mais si les disciples étaient rassurés pour la suite du voyage, ils étaient tout de même inquiets, se demandant ce qui les attendait dans le pays païen des Gadaréniens où ils allaient. Et au fur et à mesure que la barque approchait du rivage, l'idée de se retrouver dans ce pays païen leur donnait envie de faire demi-tour, d'autant qu'ils apercevaient sur la colline qui dominait la berge des cochons. Animal impur dans la pensée israélite. Et il n'y avait pas un ou deux, ni deux ou trois, mais un troupeau. Le texte nous dit qu'il y en avait 2000. En plus de ces cochons, symboles d'impureté, qui paissaient sur la colline, les disciples apercevaient des cavernes, des grottes qui servaient de cimetière. Cimetière, symbole aussi de l'impureté, de la mort. Et l'idée de se retrouver dans un pays aussi impur les effrayait considérablement. La barque arriva sur le rivage, et dès que les disciples et Jésus débarquèrent, voilà que jaillit de ces cavernes un homme possédé d'un esprit impur. J'aimerais nous amener ce matin à deux ou trois réflexions toutes simples. Le texte dit, au verset 34, que personne ne pouvait maîtriser cet homme. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Et quand on avait réussi à lui mettre des fers aux pieds, il les cassait. On n'avait jamais vu cela. J'ai dit au début que cette histoire me fait penser au monde dans lequel nous sommes et aux différentes situations qui font ce qu'il est. Dans les premiers jours de l'année, comme c'est le cas d'ailleurs chaque année, tout le monde se souhaite une bonne année. Mais les années se succèdent avec toujours les mêmes catastrophes naturelles, des attentats, des crimes de toutes sortes, de plus en plus violents, des maladies de plus en plus mystérieuses. Et alors même que nous sommes ici, des hommes et des femmes luttent pour se nourrir. Des hommes et des femmes luttent pour survivre à la guerre, pour retrouver un refuge face à ses conséquences. Des hommes et des femmes luttent pour se libérer de l'emprise du mal. Les médias continuent d'informer des drames qui surviennent partout dans le monde. Aussi bien ce qu'occasionnent les hommes que ce qu'occasionne la nature, tant de drames qui nous rappellent que nous sommes sur une terre sous l'emprise du péché, comme cet homme sorti des sépulcres était sous l'emprise du diable. Cet homme, possédé d'un esprit impur qui sort des cavernes en criant, est typique de ce qui se passe sur notre terre. Et de même que personne ne pouvait le maîtriser, personne ne trouve de solution à tous ces drames que relatent les médias tous les jours. Que de fois on entend « on n'a jamais vu ça ». On a même entendu certains qui disent croire que c'était la fin du monde. Et partout dans le monde, les hommes vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inquiétude de ce qui se passera le lendemain. Partout dans le monde, les gouvernements font des plans pour assurer la sécurité de leurs ressortissants, mais souvent en vain, parce que l'ennemi est partout. La première réflexion à laquelle nous conduit cette histoire que nous considérons ce matin est de nous amener à prendre conscience de cette misère qui règne sur notre planète, de cette misère qui règne autour de nous, et si nous allons plus loin, de cette misère qui règne en nous, parce que le monde est non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Le monde est en nous avec ce qu'il est d'orgueilleux, de jaloux, de prétentieux, de méchant, de rancunier, d'hypocrite, d'infidèle. Le monde est en nous et nous rend incapables de faire le bien que nous savons pourtant faire, incapables d'être vrais, incapables de réaliser nos projets, incapables d'atteindre nos objectifs, de tenir nos engagements, incapables de demeurer fidèles. Nous pouvons dire, comme le disait l'apôtre Paul d'ailleurs dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, « Ce qui est bon n'habite pas en moi, mais nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire et faisons le mal que nous ne voulons pas parce que le péché habite en nous. » Et si le récit de l'arrivée de Jésus à Gadara avec ses disciples nous permet de comprendre que nous vivons dans un monde qui ne laisse rien espérer de bon. Il y a tout de même dans cette histoire un autre élément particulièrement intéressant, c'est que les disciples qui sont dans la même situation de peur, d'angoisse que connaissent les hommes d'aujourd'hui, les disciples qui sont effrayés par la situation menaçante en face de laquelle ils se trouvent, ne sont pas seuls. Ils sont avec Jésus. Pourquoi est-ce particulièrement intéressant? L'homme possédé d'un esprit impur, celui que personne n'arrivait à maîtriser, alla vers Jésus et lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Il devrait dire à Jésus d'abord « entre nous et toi », puis qu'ils disent eux-mêmes être légion, c'est-à-dire en grand nombre. Cet homme est possédé par une véritable puissance, un véritable pouvoir maléfique. Pas étonnant que personne ne pouvait le lier et qu'il brisait les chaînes qu'on arrivait à lui mettre au pied. Mais la question qu'il pose a l'avantage de dire et de nous faire comprendre qu'il n'y a rien de commun entre Jésus et les esprits du mal, rien de commun entre Jésus et les esprits qui asservissent l'homme, qui l'humilient, qui l'avilissent. Qu'y a-t-il entre moi et toi, dit l'homme possédé à Jésus? Rien. Au contraire, la présence de Jésus les tourmente. La présence de Jésus limite, annule même leur pouvoir sur l'homme. Ne me tourmente pas, dit-il. Et le récit continue en disant, au verset 11 et 12 que vous avez donc sous les yeux, dans Marc 5, versets 11 et 12, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le prièrent, disant, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux, et il leur permit. Ces esprits impurs, comme tout esprit ennemi de l'homme, n'entendent pas se retirer, car leur désir est de retenir l'homme captif. Et s'il ne peut pas rester en une personne, ils cherchent à entrer dans une autre. Mais comme ils savent que Jésus ne leur permettra pas, ils le prièrent de leur permettre d'entrer dans un troupeau de pourceaux qui paissaient dans les environs. Nous lisons verset 13, qu'ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux. Et les 2000 cochons qui composaient ce troupeau se précipitèrent dans la mer et se noyèrent. Après avoir montré sur le lac son pouvoir sur les éléments, Jésus montre ici son pouvoir sur les démons. Jésus se manifeste comme le Seigneur de tous les mondes, visibles et invisibles. Il est le Seigneur des puissances, le Seigneur des esprits, le Seigneur des anges, et tout est soumis à son pouvoir, y compris les démons, et sur l'ordre de Jésus, les esprits sortirent de l'homme. Je disais que cet élément est particulièrement intéressant parce qu'il nous permet de comprendre qu'avec Jésus, on peut affronter n'importe quelle situation, y compris celle que ne peut maîtriser aucun homme. Amen. C'est peut-être le message le plus simple, mais aussi le plus important pour chacun de nous ce matin. Ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui l'ont comme compagnon, n'ont rien à craindre d'aucune puissance, quelle qu'elle soit. Jésus est le compagnon indispensable dont chacun a besoin, parce qu'avec Jésus, les choses peuvent être différentes, vraiment différentes. Avec Jésus, la légion des disputes, les incompréhensions, les petites mesquineries qui corrompent les relations, les échecs conjugaux, familiaux et professionnels peuvent disparaître. Marchons avec Jésus. Restons avec Jésus. Emmenons-le dans tous nos déplacements. Faisons en sorte qu'il nous accompagne dans toutes nos activités, chaque jour, à chaque instant, partout où nous serons et quoi que nous fassions. Parce qu'avec Jésus, les choses peuvent être différentes. Oui, tout peut être différent. Notre vie personnelle, notre vie conjugale et familiale, notre vie professionnelle, nos relations avec les autres, tout peut être différent. L'évangéliste continue et dit au verset 14, toujours de Marc 5, « Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. » La question est, mais quelles nouvelles ont bien pu répandre ceux qui gardaient les cochons? Ils avaient deux possibilités. Premièrement, annoncer partout que Jésus avait libéré l'homme des cavernes. Mais ils n'avaient probablement rien vu d'abord de tout cela. Ils faisaient paître leur troupeau vers la montagne, dit le texte. Et puis, si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle. Et tout le monde serait arrivé en louant Jésus d'avoir enfin réussi à libérer cet homme, ce qui fut impossible jusque-là. Mais ce ne fut pas le cas. La deuxième possibilité était d'annoncer simplement que le troupeau de cochons s'était noyé. Je ne pense pas que ce soit cette nouvelle non plus qui fut répandue, car si c'était celle-là, les gens se seraient dirigés vers la mer pour comprendre comment cela avait bien pu se passer. Or, il est dit au début du verset 15, Marc 5, verset 15, qu'ils vinrent auprès de Jésus. La nouvelle qui a été répandue est vraisemblablement que Jésus est arrivé et qu'à cause de lui, le troupeau de cochons s'est noyé. Parce que de la montagne, ils ont vu arriver la barque dans laquelle étaient Jésus et les disciples. Ils ont vu que c'était des Juifs et savaient que pour les Juifs, le cochon était un animal impur. Et cette nouvelle avait aussi l'avantage de déculpabiliser ceux qui gardaient le troupeau. Et on comprend pourquoi il est dit que les gens vinrent auprès de Jésus. Arrivés auprès de Jésus, la logique voudrait qu'il le regarde, qu'il lui parle, qu'il lui demande mais comment il avait fait pour que ce troupeau se noie et pourquoi il l'avait fait. Mais rien de tout cela. Pourquoi ? Parce que en arrivant auprès de Jésus, une surprise les attendait. Et leur étonnement fut grand. Quelle fut cette surprise ? Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus, toujours de Marc 5, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et furent saisis de frayeur. Là se trouve le troisième sujet de réflexion. Avec Jésus, l'être agité, qu'on ne pouvait pas maîtriser même avec des chaînes, se trouve assis, tranquille, vêtu dans son bon sens, ayant retrouvé sa dignité d'homme. C'est aussi à la fois un enseignement et un encouragement pour chacun de nous. Avec Jésus, il y a un avant et un après. Avec Jésus, le mari violent, intransigeant, mesquin, arrogant peut devenir aimable, gentil, compréhensif, attentionné avec son épouse. Avec Jésus, l'épouse querelleuse, susceptible, exigeante, peut devenir douce, soumise à son mari. Avec Jésus, les enfants durs, rebelles, peuvent devenir dociles et bons. Avec Jésus, il n'y a pas de situation perdue de façon définitive. Quel que fût notre passé, quelles que soient les chaînes qui nous lient et nous empêchent de vivre libres et heureux, avec Jésus, il y a toujours une porte qui s'ouvre ou qui peut s'ouvrir sur un avenir différent. Quand on lit le verset 16, on comprend que certains avaient vu ce qui s'était passé, puisqu'il a dit au verset 16, « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent à ceux donc qui étaient venus vers Jésus ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. » Alors, verset 17, « Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » Les gens qui étaient venus vers Jésus lui demandent de quitter leur territoire. Jésus, qui est toute puissance, aurait pu s'opposer aux gens du pays et décider de rester encore à Gadara, mais il choisit de s'en aller. Il y a ici une autre réalité, voyez-vous. Tant que l'homme qui était possédé, tant qu'il était nu, habitant de la sépulcre, avec ses bouts de chaîne aux pieds, personne ne s'intéressait à lui. Il ne dérangeait personne. Il était dans ses cavernes. Mais maintenant qu'il est libéré de ses démons, maintenant qu'il est vêtu et dans son bon sens, il dérange. Il en est de même pour nous. Tant que nous sommes dans le monde, avec le monde, enchaînés par ses activités et les plaisirs du monde, tant que nous vivons en marge de ce que Dieu veut pour nous, nous ne dérangeons personne. Mais à partir du moment où nous sommes guéris par Jésus, nous devenons des empêcheurs de tourner en rond. Nous dérangeons. C'est aussi la situation du monde actuel, car les hommes ne supportent plus la présence de Jésus. Cette présence dérange parce qu'elle conduit à abandonner certaines choses. Elle dérange parce qu'elle conduit à reconsidérer notre échelle de valeur, surtout lorsqu'elle met en cause des intérêts financiers. Mais de même que l'homme possédé ne pourrait pas changer en voulant garder ses chaînes, nous ne pouvons pas changer en restant ce que nous sommes. De même que l'homme possédé ne pouvait pas changer de vie en voulant continuer à demeurer dans la caverne, nous ne pouvons pas non plus vivre autre chose en nous accrochant à notre vie passée. Le prix du bon sens pour cet ancien possédé devenait une catastrophe pour la société de Gadara. Personne, pas même un seul, ne s'est réjoui de sa guérison. Pas un seul. Ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire. C'est aussi une réalité de la société actuelle. On donne plus d'importance, plus de valeur aux choses qu'aux personnes. Le monde ne supporte pas la présence de Dieu. Les hommes ont supprimé Dieu de leur vie, préférant se donner d'autres dieux selon leurs désirs. Argent, notoriété, titre, célébrité. Ils préfèrent chercher la paix dans des plaisirs et même dans certains subterfuges comme l'alcool, la drogue. Et quand les choses vont mal, ils appellent Dieu au secours et demandent « Que fait-il ? » Pourquoi n'intervient-il pas pour mettre fin, par exemple, aux violences de toutes sortes, ou pour faire cesser les guerres, ou éviter les conséquences, ou les enrayer la misère, etc. Ils osent dire, s'il y a un Dieu, pourquoi permet-il ceci ou cela, oubliant que ce sont eux-mêmes qui l'ont supprimé de leur vie. Le récit continue en disant, à partir du verset 18, comme il, Jésus, montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » L'homme qui a été libéré, qui était de nouveau vêtu dans son bon sens, demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Il souhaitait repartir avec Jésus de l'autre côté pour deux raisons. Premièrement, pour sa sécurité, parce qu'il se sentait menacé par ceux qui, en perdant leur cochon, avaient aussi perdu leur source de revenus et risquaient de se venger sur lui. Et il se disait, eh bien, qu'avec Jésus, il serait en sécurité. Il souhaitait repartir avec Jésus de l'autre côté du lac, deuxièmement, pour être avec Jésus, pour devenir un des disciples de celui qu'il avait enfin libéré, qu'il avait guéri. C'est aussi une réalité actuelle. Celui ou celle qui est conscient d'avoir bénéficié d'une grâce particulière de Dieu, qui a été guéri par Dieu, désire suivre Jésus, quitter le monde le plus vite possible pour être toujours avec son Seigneur. Et alors que cet homme exprime ce désir, Jésus lui dit « Non, non, non. Tu ne viens pas avec moi. Tu restes ici. Tu restes ici, et non seulement tu restes ici, mais tu vas dire à ta famille, tu vas dire au tien ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Ce n'est pas que Jésus ne veuille pas que cet homme vienne avec lui, mais voyez-vous, Jésus aime sa famille. Jésus sait que sa famille et que ceux de sa maison ont aussi besoin d'être libérés. Libérés non pas des chaînes comme celles que lui avait aux pieds, mais des chaînes invisibles de l'absence de Dieu dans leur vie. Absence de Dieu qui se traduit par l'orgueil, par l'indifférence, par le manque d'égard pour les autres, par le manque d'amour dans la famille justement, par toutes les violences que subissent certains conjoints par l'incapacité à pardonner aux autres les torts qu'ils nous ont faits. Jésus aime la famille de cet homme et sait que lui, qui a été guéri, est le mieux placé pour être auprès d'elle mais aussi auprès des Gadaréniens, un témoin, un instrument qui leur permettra de comprendre qu'ils ont besoin de Jésus comme compagnon de route, car lui seul peut changer leur vie et leur apporter paix et sécurité. Il en est de même aujourd'hui. Jésus aime nos familles et s'attend à ce que ceux qui ont été guéris par lui soient ses témoins, pour permettre aux autres, et principalement à ceux de leur famille, de le connaître. De le connaître non pas par des démonstrations théologiques, non pas en les sermonnant, mais en disant ce qu'il a fait pour eux. J'ai dit ce qu'il a fait pour eux, mais en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité est qu'ils disent ce que le Seigneur lui a fait. Va dire au tien ce que le Seigneur t'a fait. La plupart des croyants savent dire ce que Jésus a fait. Ils savent dire que Jésus a guéri des malades, qu'il a ressuscité des morts, qu'il a accordé le pardon à des criminels, des prostituées, etc. L'ex-démoniaque avait des choses à dire sur Jésus et sur ce qu'il avait fait, sur la façon dont il était arrivé à Gadara, sur la façon dont il lui avait parlé, sur la façon dont il avait ordonné aux esprits de sortir de lui, sur la puissance de sa voix et sur son autorité, même sur les démons, etc. Il pouvait dire aussi ce que le Seigneur avait fait pour lui. Par exemple, comment il avait fait tomber ses bouts de chaîne qu'il avait aux pieds, qui lui avait redonné la liberté, liberté de choisir, de décider, qui lui avait fait don d'une nouvelle vie, etc. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui demande. Jésus lui dit, verset 19, « Va raconter au tien ce que le Seigneur t'a fait. » Et ça, c'est autre chose. Il devait pouvoir dire son bonheur d'avoir rencontré Jésus. Il devait pouvoir dire que, grâce à Jésus, il avait une nouvelle raison de vivre, de nouveaux objectifs. Il devait pouvoir dire combien Jésus avait fait naître en lui de l'amour pour lui et pour les autres. Il devait pouvoir dire combien il était rempli de confiance en Jésus. Il devait pouvoir dire que, grâce à Jésus, il était désormais un être nouveau et que son seul désir était de retrouver un jour celui qui avait transformé sa vie lamentable en une vie abondante. Et ce qu'il dirait que Jésus, lui, avait fait, devait se voir à travers lui par ceux à qui il le dirait. Comment, en effet, puis-je dire aux autres que Jésus peut transformer leur vie s'ils voient que Jésus n'a pas pu transformer la mienne? La question qui se pose à chacun de nous ce matin est: qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Il est important de comprendre que nous ne serons pas sauvés parce que nous avons travaillé pour Dieu, parce que nous avons fait des choses pour Jésus ou en son nom. Jésus dit d'ailleurs, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous ne serons pas sauvés non plus parce que nous obéissons au commandement de Dieu. Le jeune homme riche dit « J'observais toutes ces choses dès mon jeune âge ». Nous ne serons pas sauvés non plus parce que nous avons eu une vie religieuse impeccable. Le pharisien qui priait dans le temple avec le publicain dit « Je jeûne, plusieurs fois la semaine d'ailleurs, je donne la dîme de tous mes revenus. » Pourtant, il n'a pas été justifié. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous laissions transformer par lui de l'intérieur. Écoutons ce qu'il dit d'ailleurs dans Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vois que vous tournez encore les pages, j'attends pour que nous soyons ensemble. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire. Il veut nous transformer de l'intérieur pour nous rendre capables d'aimer comme il nous a aimés et de pardonner comme il nous a pardonnés. Il veut nous transformer de l'intérieur pour que nos pensées se dirigent toujours vers le bien, vers le beau. Il veut nous transformer de l'intérieur pour nous rendre capables de vivre une vie sans péché. Il veut nous transformer de l'intérieur pour que nous puissions manifester envers les autres le même intérêt que Jésus avait envers eux. L'a-t-il fait pour nous ? Lui avons-nous seulement permis de le faire ? Nous a-t-il transformé de l'intérieur pour que nous soyons capables de dire, non seulement par des mots, mais surtout par notre manière d'être et de vivre, ce qu'il nous a fait ? Quelle transformation a-t-il opéré de nos cœurs, de notre caractère, de nos sentiments? Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? C'est la question qui nous est posée ce matin. Vous a-t-il libéré des chaînes de l'égoïsme, de la convoitise, de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'infidélité, etc.? Le Seigneur a-t-il rendu chaque mari ici présent capable d'aimer son épouse comme Christ aimait l'Église? À chaque épouse ici présente d'être soumise à son mari comme au Seigneur? L'homme des cavernes a certainement connu cette transformation et était capable de rendre un témoignage vivant dans sa famille auprès des siens. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dit « Va dans ta maison ». Vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Il a compris le message. Il voulait quitter Gadara par peur des représailles. Mais maintenant, il n'a plus peur. Il sait que si Jésus lui confie cette mission, il ne le laissera pas seul. Il sait que le Christ sera avec lui, comme il l'a promis à ses disciples, en leur disant « Je serai où je suis avec vous » tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a accepté d'être les yeux, les mains, la bouche de Jésus, non seulement dans sa famille et auprès des siens, mais dans tout Gadara, et même plus loin, puisque le texte dit au verset 20, toujours de Marc 5, « Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui ». Et tous furent dans l'étonnement. Cet homme avait été véritablement transformé par Jésus, car par des paroles seules, ou même des paroles seules, ne peuvent pas étonner les autres. Il faut qu'elles soient accompagnées par quelque chose de visuel. C'est vrai que nous vivons dans un monde où tout est virtuel. Mais les hommes, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne la confiance, ont besoin de voir. Il faut que ceux qui entendent, celui qui parle, voient en lui que ce qu'il dit est vrai. Le Seigneur attend en réalité que nous lui permettions de nous transformer de l'intérieur. Le jour vient où tous ceux qui ont été guéris par lui, qui ont fait de lui leur compagnon de route, seront avec lui pour l'éternité. Mais en attendant ce jour, l'histoire de l'homme des cavernes est là pour nous aider à comprendre qu'avec Jésus, nous pouvons affronter les plus grands drames, qu'avec Jésus, on peut avoir de l'espoir, même quand les choses vont mal. Cette histoire est là pour nous dire que Jésus est le seul capable de transformer nos misères, nos sentiments d'échec, de jeter toutes nos cochonneries dans la mer et nous permettre d'être ses témoins dans nos familles. Il nous faut aussi, comme cet homme, entendre le témoignage ou le message du Christ. Va, va dans ta famille, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voilà, voilà le programme que le Seigneur nous propose pour les jours à venir et jusqu'au moment où il décidera de revenir pour nous prendre avec lui. Puissons-nous l'entendre, puissons-nous aller et que les autres soient étonnés de ce qu'ils entendront et verront de nous, simplement parce que le Seigneur nous aura transformés de l'intérieur. Amen.